RCF.
h 10 sur les antennes de RCF Reims-Ardenne, RCF Cœur de Champagne. Merci d'être avec nous. Voici le magazine régional.
Magazine régional, c'est en direct de 18h10 à 19h avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne. Nos invités du lundi, traditionnel, il est en direct. On retrouve bien entendu Claude Ruiz dans un instant et puis Alexis Claudresse qui est là en permanence. Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Une bonne nouvelle Alexis pour un direct demain, on l'annonce d'ores et déjà avec le Festival des Marionnettes.
Effectivement, le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes qui a ouvert ses portes ce week-end du côté de Charleville-Mézières, la 22e édition qui bat déjà son plein, notamment aux alentours de la place du Cal. Eh bien, vous savez, Jean-Pierre, si je vous parle de la place du Cal, c'est parce que demain, ce magazine régional de 18h10 à 19h, il sera réalisé, présenté en direct depuis la place du Cal, devant les magasins chanteurs à l'angle de la rue de la République.
Les magasins chanteurs qui, rappelons-le, sont partenaires de RCF. A signaler également que le pape François va se rendre à Marseille et que bien sûr, samedi, changement de programme sur RCF, puisque la messe sera retransmise le samedi 23 septembre en fin d'après-midi. Mais dès jeudi, nous aurons en direct depuis Marseille Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort qui sera sur place et qui interviendra dans le magazine régional du 18-19, tandis que Monseigneur Étienne Véteux, nouvel évêque auxiliaire, sera en direct vendredi matin, parce qu'il sera encore vendredi à Reims. Il rejoindra à Marseille dans la journée ou dans l'après-midi. Alors, c'est vrai, Alexis, que notre programme ce soir est encore particulièrement chargé.
Effectivement, dans quelques minutes, un maire qui nous parle, ça sera Bruno Cauchemet, le maire de Romilly, dans le 51, dans la Marne.
Parce que c'est vrai que lorsqu'on Romilly, dit Romilly, oui.
Dans la Champagne-Ardenne,
on pourrait penser à Rumigny aussi dans les Ardennes, oui, hein, ça n'a rien à voir.
On pourrait penser à Romilly-sur-Seine dans l'Aube.
Absolument.
Etc. Donc, ça fait quand même plusieurs Romilly.
G-N-Y, hein, Romilly.
Ça, c'est dans les Ardennes.
Non, là, c'est à Reims.
Là, c'est Romilly.
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 Romilly, G-N-Y, voilà.
Voilà.
On est bon, c'est le maire de ce soir, c'est avec Bruno Cauchemet. C'est un vrai sketch avec Jean-Pierre Benoît. On sera également avec Alain Boulan, qui nous parlera de la consécration de la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. Il est pianiste, organiste. On sera aussi, tiens, dans les nouvelles de Cézanne, Jean-Pierre, avec Paul Ernevine, qui est le responsable du service évangélique des malades pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Et puis enfin, on évoquera la 39e édition des Virades de l'Espoir. Le rendez-vous, c'est le 24 septembre, notamment sur 5 sites marnais. 18h13, voilà pour l'introduction qui était un petit peu longue ce soir. Mais vous inquiétez pas, on va retrouver tout de même notre chroniqueur, comme tous les lundis, en alternance, Jean-François Boulanger et Claude Ruiz pour regarder sur le monde. Aujourd'hui, on regarde sur le monde avec Claude Ruiz. Bonjour.
Bonjour.
La question que vous posez lors de cette chronique, la France a-t-elle une politique étrangère bien définie? On va tenter d'y répondre avec d'abord un premier point. L'organisation du monde change à grande vitesse, Claude Ruiz, comme l'a montré d'ailleurs le récent sommet des BRICS. C'est les pays émergents, comme on les appelle, d'où la question du renouveau de la politique étrangère française notamment.
Oui, je crois qu'il y a des étapes, des évolutions. Alors les historiens travaillent dessus pour faire des sortes de séquences pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça évolue. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est évident qu'on a établi tout un programme, et en particulier sous l'influence du général de Gaulle, qui a pratiquement, pour la politique étrangère française, donner ou imposer presque deux pistes. D'une part, celle qu'il avait mis en avant pour la France, c'est-à-dire donc le refus de la servitude. Je reviens pas sur juin 40. Et puis d'autre part, l'affirmation de l'indépendance. Peut-être celle qui est la plus difficile, en fin de compte, à affirmer dans un monde très complexe. Et dans ce cadre-là, on pourrait indiquer que, bien entendu, le général de Gaulle se méfiait un petit peu de l'OTAN. Donc, on l'a même accusé un peu d'anti-américanisme, mais il se méfiait de cette grande structure qu'il ne maîtrisait pas. D'autre part, il y a eu un droit de veto donc au Conseil de sécurité. Je vous rappelle que la France était un des 5 membres de ce Conseil de sécurité. Et puis, bien entendu, la dissuasion nucléaire qui vous permet d'avoir une sorte de bras en disant « Attention, moi, j'embête personne, mais il faut pas venir me chercher. » Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui se continue, mais je dirais la France, pendant ces années 50, 60, 70, elle a eu un rôle important dans le tiers-monde, justement de fait de ses positions, et vis-à-vis en particulier des pays émergents.
Alors Claude Ruiz, comment a évolué cette politique étrangère, en particulier vis-à-vis de notre ancien espace colonial ?
Ben, je crois que le climat, si on reprend tous les analystes, vous avez vu, le climat est plutôt un peu glacial, en particulier par rapport aux pays du Maghreb. Avec l'Algérie, ça a toujours été très difficile, malgré des textes hein, de rapports diplomatiques qui sont définis en particulier à partir de 1968. Hein, c'est pas des accords d'Évian, c'est la conséquence des accords d'Évian. Et actuellement, on est toujours entre le chaud et le froid. Hein. Je vous rappelle que le colonialisme français a été considéré un peu comme un crime contre l'humanité, donc ça jette un froid. Bien entendu, pour le président Macron, il a fortement critiqué la rente mémorielle que l'héritage colonial assure à l'Algérie. Donc, on se jette des petites phrases et, bien entendu, ça ne fait pas avancer véritablement les relations. C'est pareil avec le Maroc, hein, vous l'avez vu, il y a eu tout un ensemble qui a été remarqué suite à la non-demande du Maroc dans un premier temps, donc de l'aide par rapport aux dernières catastrophes. Et que dire de la zone sahélienne où la France a été beaucoup agitée, donc Mali, Burkina, Niger, où les militaires au pouvoir ont repoussé un petit peu cette présence française. Donc, pour la France, on a une position relativement difficile actuellement. L'anticolonialisme sert dans beaucoup de ces territoires un petit peu d'alibi au gouvernement qui arrive au pouvoir, quelle que soit la forme donc de l'arrivée. Mais il faut bien voir que, d'autre part, on n'a pas une image très très claire, très très nette de ce qu'est la France quand elle est dans ces territoires. Et le président Macron, la dernière fois, donc sur le Congo, il a fait quelques petites erreurs diplomatiques. Bon, il est allé en boîte, on peut pas
vous
l'empêcher.
Vous en avez relevé quelques-unes.
on peut pas l'empêcher d'aller en boîte, mais il a fait une remarque au président Tshisekedi en disant vous n'avez pas été capable, en fin de compte, de restaurer la souveraineté de votre pays. Alors, bien entendu, tout ça, ça jette des froids. La diplomatie, c'est quelque chose qui se déguste. Donc, il faut aller doucement.
Alors, qu'en est-il en Europe, Claude Ruiz ? Est-ce que le visage est un petit peu mieux ?
Alors, en Europe, l'importance des relations pour la construction européenne, vous le savez, ce sont les relations franco-allemandes. Et donc là, il y a eu toute une tradition, hein, De Gaulle, Mitterrand, Rocard, Bérou. On pourrait prendre un certain nombre de gens qui ont mis en avant que pas de France sans l'Allemagne et je dirais pas d'Europe sans la France. Là, on avait des choses très, très précises. Et l'Europe, pour le moment, n'est pas capable de définir une vraie politique étrangère commune. On l'a vu sur différentes thématiques, les problèmes migratoires, l'Italie et même le problème ukrainien. Et donc, de ce fait, on s'aperçoit que là, on prend des fois des positions qui sont ambiguës. On n'ose pas avancer. Donc, même pour l'Europe, on est dans quelque chose d'assez timide.
Que doit-on faire pour retrouver des positions diplomatiques, j'allais dire, on ose de dire d'ailleurs, Claude Ruiz, plus fortes ?
Je crois qu'il faut sans doute réaffirmer des choix plus clairs, parce qu'il faut aussi que, j'allais dire, la nation se retrouve un petit peu dans ses choix, du moins majoritairement. Alors en Europe, c'est peut-être de bien définir ce qui est de la compétence nationale et ce qui est de la compétence européenne, en particulier quand on prend les grands marchés de l'énergie. Ils sont en fin de compte de compétences nationales, même si l'Europe donne une indication. Alors il faut peut-être pas être toujours suiviste sur le plan de l'énergie, par exemple. Des pays comme l'Espagne et le Portugal ont imposé leurs compétences nationales par rapport à l'Europe. Je crois qu'il y a des intérêts en jeu et il faut savoir jouer de ça. Alors peut-être pas aller jusqu'à la chaise vide, ce qu'avait fait le général de Gaulle à une époque et dans un contexte bien défini et bien particulier. Mais je crois qu'il faut maintenir les contacts avec ce qu'on a indiqué, c'est-à-dire les pays émergents, qui représentent à la fois des territoires immenses, plus de la moitié de la planète, des populations très très importantes, qui ont bien entendu des cultures très différentes. Et je crois qu'il faut essayer de jouer un petit peu, si vous voulez, sur ces appuis. Il faut retrouver la France avec, je dirais, des idées bien définies.
la solution des choix plus affirmés pourrait être une issue, Claude Ruiz ?
Oui, je crois. On demande une politique étrangère, vite, une politique étrangère. C'est un petit peu là-dessus que je terminerai.
Eh bien, merci Claude Ruiz de nous avoir éclairé, d'avoir regardé sur le monde avec nous et sur la politique étrangère française. On vous dit à très bientôt, et bientôt, c'est dans une semaine, dans 7 jours.
Oui, c'est ça.
À bientôt, Claude.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h21, le magazine régional RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardennes. Pour ceux qui nous écoutent via le DAB+, ils sont de plus en plus nombreux chaque jour, Jean-Pierre, on n'en doute pas un seul instant. Vous êtes avec un maire, Jean-Pierre, avec nous au téléphone ce soir?
Absolument, on prend la direction de Romigny avec Bruno Cauchemet.
C'est le maire qui vous parle ce lundi soir.
Bruno Cauchemet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion de vous connaître, vous, de connaître votre commune. Alors, justement, parlons un peu de votre commune. Combien y a-t-il d'habitants? Et vous êtes maire depuis combien de temps, jeune maire?
Alors, il y a 220 habitants. Hein, ça reste très constant depuis de nombreuses années. Et puis, ben, moi, je suis maire depuis 34 ans. J'entame mon sixième mandat.
Et on peut dire que vous n'êtes pas lassé de ce mandat, parce que vous êtes un maire passionné.
Oui, passionné, et puis c'est une fonction intéressante, de rendre service aux gens, c'est très intéressant. Hein. Bon, on a des hauts, des bas, ce qui est normal. Hein. Puis non, mais il va y arriver un moment où je laisserai ma place, c'est normal.
Alors, justement, Bruno Cauchemet, est-ce que on peut en savoir un peu plus sur votre commune aujourd'hui? Là où elle est située, mais quel type de population, quel type d'habitants habitent chez vous, les plus de 200 habitants?
Eh bien, si vous voulez, jusqu'alors, c'était surtout c'est une commune rurale, hein. C'était des gens qui travaillaient dans les fermes, hein, un peu dans les vignes. On n'a pas de vignes, nous, mais encore aux alentours, on travaille en vigne. Et depuis le Covid, si vous voulez, ben, la population a changé, puisqu'on a eu énormément de gens qui viennent de la ville, si vous voulez, qui sont venus sur Romigny. Et la population de Romigny a changé depuis 3 ans.
À combien de kilomètres de Reims vous êtes à Romigny?
On est à 25 kilomètres de Reims.
Alors peut-être qu'il y a des personnes qui, avec le Covid entre autres, se sont dit avoir une maison, d'ailleurs c'est certainement moins cher forcément, dans les villages, et qui ont trouvé véritablement chez vous un cadre de vie, une qualité de vie.
Oui, il y a ça. Bon, on est aussi à... disons 6 km de la sortie de l'autoroute, hein, la sortie Dormant du A4. Donc il y en a qui travaillaient un petit peu vers Dormant, d'autres vers Reims, et ils ont choisi le milieu un peu du village. En plus, sur Villantardenois, il y a une supérette, on a tout un pôle de distribution de médecins, de choses comme ça. Donc ça attirait quand même les gens. Et puis le fait de venir à la campagne dans la verdure, quoi.
Alors, vous êtes souvent sollicité en tant que maire. Hein, on disait même que vous êtes, c'était Gérard Larcher qui le disait, je le cite souvent, à portée d'engueulade. On voit le maire, des fois on le félicite, mais des fois on n'est pas content. Il y a beaucoup de maires qui s'interrogent d'ailleurs face aux responsabilités, parce que ils se disent, vu le travail qu'on doit faire, voilà, ils hésitent.
Oui, c'est sûr, on est souvent sollicité. Il y a du bon, puis il y a du pas bon de temps en temps. Bon, en règle générale, c'est toujours du bon. Moi, j'ai jamais eu de gros problèmes, hein. Mais il faut savoir aussi s'adapter à la population, s'adapter aux gens. Il faut faire des efforts. Nous, les maires aussi, hein, on doit faire des efforts, comme les citoyens doivent faire des efforts. Mais non, ça se passe bien, je vais pas dire le contraire.
Alors vous êtes au sein du Grand Reims également. Est-ce que, et là, c'est une question qu'on pose à chaque fois, est-ce que quand même le maire reste le patron chez lui, malgré tout, malgré cette structure avec laquelle il travaille?
Oui, si vous voulez, moi j'ai participé énormément à la formation du Grand Reims, puisque j'étais président de ma communauté de communes, et quand on a mis en route le Grand Reims, on s'est réunis, il y avait un comité de pilotage où je participais. Hein. Donc le Grand Reims, oui, on perd des compétences, mais le patron dans la commune, c'est toujours le maire quand même. Et c'est justement un petit peu la difficulté avec les services du Grand Reims, où les services auraient tendance un petit peu à nous exclure. Mais comme je dis moi au nouveau maire qui arrive, c'est à nous de suivre le mouvement. Il faut surtout pas se retirer, ça, c'est sûr qu'on perd la main. Hein. Donc Bon, le Grand Reims, c'est quand même une bonne chose. Bah, y a du bon puis du pas bon. On a la chance d'avoir Catherine Vautrin, que je connais très bien, moi, puisque j'ai travaillé avec elle, hein, quand elle était députée, qui a toujours fait très attention de nous respecter, les maires. De dire, bah, vous êtes là, c'est vous la cheville ouvrière, quand même, du Grand Reims. Alors, c'est pour ça que les maires, nous, il faut suivre les indications du Grand Reims. Il faut être là, il faut être à l'écoute de ce qui se passe avec le Grand Reims. Ça, c'est certain, on peut se faire dépasser.
Alors, quel type de demande, quelles sont les questions qui sont formulées par les habitants aujourd'hui chez vous, dans votre commune, à Romigny?
La grosse demande, c'était la sécurité de la RD 980. Qui traverse le pays. Donc on a fait des travaux là pour aménager, enfin de la peinture, pour aménager le ralentissement des voitures, parce qu'on a quand même une grande départementale qui passe chez nous. Et puis bon, bah dans l'ensemble, c'est le bien-être du village. Hein. On fait tout ce qu'il faut pour que les gens se trouvent bien dans le village. Hein. Bon, après, toutes les compétences, c'est le Grand Reims qui règle les problèmes. Hein. Mais les grosses demandes, c'est ça, c'est le bien-être du village.
Est-ce que vous avez, vous, Bruno Cauchemet, un certain nombre de projets à court ou à long terme avec votre commune? Évidemment, vous n'avez pas un budget exceptionnel pour faire tout ça, mais vous avez quand même quelques projets, quelques idées en tête?
Eh bien, avec des projets, oui, bon, on a un projet de réaménagement un peu d'un ancien lavoir, mais c'est un petit peu compliqué, qui se trouve sur un terrain, bon, qui date de la construction du... C'est la même construction que les Halles de Reims. Donc, nous, on voulait le faire un peu classé avec le Grand Reims, et puis ça s'est pas bien passé. Bon, là, on aurait un peu un projet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre propre, quoi, puis utile. Et puis, bah, des projets, si on aurait un projet d'aménagement un petit peu de service aux enfants, de faire un peu un terrain de jeu, si vous voulez, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose. On a des projets, mais les projets, bah, c'est les finances qui nous,
bien sûr,
qui nous bloquent un petit
c'est
peu.
C'est le hein. Nerf de la guerre, hein, Bruno Cauchemet.
Le nerf de la guerre.
Alors, maire et vie professionnelle, vous l'avez été, mais vous êtes maire depuis plusieurs dizaines d'années. Maire et vie familiale, vous avez réussi à concilier les deux en une minute?
Eh ben, c'est pas facile, mais je dois reconnaître que mon épouse a très bien accepté ma fonction. Hein, ce qui n'était pas si simple que ça, parce que j'étais cultivateur quand même. Donc moi, j'avais la ferme à tourner. Bon, on avait trois enfants. C'était pas toujours simple, mais je reconnais que mon épouse m'a toujours laissé libre de mes engagements, ce qui n'était pas toujours facile. Donc je lui rends toujours hommage pour ça. Et puis, bon, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Et de temps en temps, bah, j'étais dans les champs et il fallait que je revienne pour être présent. Et ce n'était pas toujours facile, hein, je reconnais. Ouais. Hein,
Bruno Cauchemet, on termine, il nous reste à peine 20 secondes là. Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, je le demande à chaque fois, est-ce que vous êtes un maire heureux? On vous sent passionné. Vous êtes heureux d'être le maire, finalement?
Oui. Êtes... Avec tous les problèmes qui peuvent se greffer. Hein,
mais malgré tout, le plus l'emporte.
Moi, le plus l'emporte, oui, tout à fait. Dans
Merci.
Ma commune, avec mes gens. Hein.
Merci en tout cas, Bruno Cauchemet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Voilà, c'était Bruno Cauchemet, le maire de Romigny, dans le département de la Marne. Et puis demain, eh bien, il y aura un autre maire qui sera notre invité.
Christophe Heller,
le maire de Villers-sur-Barre. Une commune que vous connaissez particulièrement bien, Alexis.
Ouais, je connais un petit peu, Jean-Pierre. On n'en dira pas plus, mais effectivement, je connais un petit peu.
Dans le département des Ardennes, pas loin de Sedan, pas loin de Charleville, enfin.
Entre Sedan et Charleville-Mézières, en proximité avec Doncherie, 250 habitants, un petit peu plus maintenant.
Que vous évoquez Charleville, mais on y est encore demain pour les marionnettes.
Ouais, effectivement, le Festival mondial des théâtres de marionnettes a ouvert ce week-end. Ça se passe jusqu'à la fin du week-end prochain. Et demain, mardi, 18h10, 19h, magazine régional spécial, sans journal, mais avec, par contre, plusieurs invités qui se succéderont en plateau. Et si vous aussi, les auditeurs de RCF, vous voulez venir nous rencontrer, partager vos témoignages, eh bien n'hésitez pas, on sera entre la place du Cal et la rue de la République, en proximité, juste devant les magasins Janteur, avec notre partenaire au bar Janteur et ses magasins. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on vous témoignera de notre amitié en direct à l'antenne et puis peut-être en off pour les plus timides. Si jamais, voilà, vous osez pas mais que vous avez envie de nous rencontrer, eh bien, ce sera le moment.
En attendant, Alexis, on vous retrouve tout de suite pour le magazine régional, mais plutôt pour l'info régionale, puisqu'il est 18h30.
Le 18-19 sur RCF.
Avec les titres de ce lundi 18 septembre, le 9 septembre dernier, tous les élèves de 6e du collège Notre-Dame-Perrier de Châlons-en-Champagne étaient conviés à récupérer leur tablette numérique. C'est une découverte. L'association Pinceau Passion en Champagne revient avec une exposition d'aquarelle qui va durer plus d'un mois. Mais surtout, elle vous propose, cette association, d'assister à la réalisation rétroprojetée de toiles. Zoom sur ce rendez-vous organisé vendredi prochain.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Depuis la rentrée de septembre, l'équipe du collège Notre-Dame-Perrier de Châlons-en-Champagne a décidé de mettre en place un dispositif innovant que chaque élève entrant en 6e dispose d'une tablette numérique. Pour le chef d'établissement Vincent Giot, c'est de proposer aux élèves un apprentissage réinventé tout en gardant les fondamentaux.
Depuis que je suis en direction, je réfléchissais à comment alléger le poids du cartable. C'est réglé avec les outils numériques, puisque les manuels scolaires peuvent rester à la maison. Et en classe, on a tout à fait la possibilité de projeter les pages nécessaires du manuel scolaire. En fait, on a juste intégré un objet supplémentaire. Il y a toujours une trousse, il y a toujours des cahiers, il y a toujours un cartable. Je tiens énormément à ce qu'il y ait un cahier de texte, papier. Et la tablette, qu'est-ce qu'elle vient amener? Elle vient amener des idées pédagogiques différentes, des pratiques pédagogiques un petit peu différentes.
Formés, les enseignants ont reçu leur tablette depuis janvier dernier. Thomas, professeur d'histoire-géographie au sein de cet établissement, valide le concept tout en veillant à l'organisation.
On peut tout apprendre avec ça, c'est plus simple. J'ai amené mon classeur, j'ai amené des feuilles avec mes stylos pour quand même recopier le cours. Faut continuer d'écrire. Mes parents, ils trouvent ça super. Par exemple, on a eu l'application École Directe. Alors si je note pas tout dans l'agenda, si des fois j'oublie quelque chose, je peux aller regarder ce que j'ai comme devoir sur École Directe.
Alors vous l'avez bien compris, le son qu'on vient d'entendre, ce n'était pas Thomas, c'était Noé, l'un des 148 élèves de 6e qui expliquait que c'était une source de facilité et de simplicité d'apprendre sur cette tablette qui est quand même louée au prix de 16€ par mois, des tablettes qui ont convaincu les parents. Cette fois, on va bien retrouver notre professeur d'histoire-géographie, Thomas, qui fait partie des enseignants qui ont été formés sur cette tablette depuis janvier dernier.
C'est quelque chose de très important dans la société d'aujourd'hui, attirer les élèves quand c'est du numérique. Bah, c'est quand même beaucoup plus simple aussi. Après, voilà, on va veiller, nous, peut-être aussi, à l'organisation à l'intérieur de la tablette. C'est comme un bureau d'ordinateur qui n'est pas rangé, où il y a plein de fichiers partout. Bah, ça va être le même principe. Et donc, du coup, comme le collège travaille sur l'autonomie des élèves, la tablette, c'est aussi un exercice constant d'organisation et donc d'autonomie, de travail sur l'autonomie aussi.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Le collège Notre-Dame de Perrier de Châlons-en-Champagne est le 4e établissement catholique interdiocèse à proposer cet outil numérique. Plusieurs rendez-vous à cocher dans l'agenda pour ce mardi et mercredi, mais on vous le donne dès aujourd'hui parce que vous avez compris, il n'y aura pas de journal régional demain, même si le magazine régional, lui, a bien lieu. Soyez au rendez-vous demain à 18h10. Ce mercredi 20 septembre à Reims, c'est la 5e édition du Job Dating étudiant organisé par le CROUS de 10h à 18h à l'hôtel de ville. 32 entreprises exposeront pour recruter des étudiants à temps partiel ou en job saisonnier ou encore de manière ponctuelle. Des emplois compatibles avec les études. Venir avec son CV est évidemment recommandé. Ça se passe aussi mercredi. L'association Prévention Routière de la Marne vous donne rendez-vous sur le parvis de la gare de Reims de 10h à 18h pour une journée de la mobilité avec notamment un atelier de trottinette et nouvelles réglementations. Et si on vous annonce tous ces rendez-vous dès aujourd'hui, c'est parce que demain soir, il n'y aura pas de journal, mais bel et bien un magazine régional, Jean-Pierre, réalisé en direct, en intégralité, depuis la place du Cal, à l'angle de la rue de la République de Charleville-Mézières, où se tient la 22e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Jean-Pierre, un événement tout à fait exceptionnel.
Et nous serons au cœur névralgique de ce festival, entre l'église Saint-Remi de Charleville-Mézières, la place du Cal, qui est le rendez-vous de tous les festivaliers, et donc nous serons, j'allais dire, au cœur du cyclone.
Et puis ce mardi sera aussi, Jean-Pierre, une journée particulière pour toute l'équipe de RCF, la grande famille RCF Reims-Ardennes. On aura une pensée pour notre producteur et membre du bureau trésorier adjoint, Jean-Pierre Quénard, qui a perdu récemment son épouse Marie-Lou.
Et oui, son épouse qui est décédée lundi dernier, il y a tout juste 8 jours, et dont les obsèques sont célébrées à 14h30 demain en l'église Saint-Jacques de Reims. Il faut signaler également la disparition de Michel Gaden, qui avait été, il y a de nombreuses années, une secrétaire de direction, mais qui avait été aussi à l'accueil pour Radio Fourvière à l'époque. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Évidemment, nos pensées et nos prières s'unissent à la douleur de toutes ces familles et des proches de l'ensemble de ces personnes. Vendredi dernier, l'association Pinceau Passion en Champagne a ouvert sa nouvelle exposition annuelle d'aquarelles haute en couleurs, présentée à la Maison Commune du Chemin Vert de Reims, qui met à l'honneur les artistes ukrainiens Victoria Prichetko et Slava Prichetko, un couple au style diversifié. Présentation avec Dominique Lenoré, présidente de l'association. Ah, on n'a pas eu le son, on va le retrouver, on a des petits problèmes de la bande-son, on l'avait pas vu, ça va arriver, donc c'est une exposition hein, qui est proposée. Jean-Pierre, vous l'aquarelle, ça vous connaît, vous aimez bien l'art.
C'est une association bien connue, hein, Boujon Avançon.
Ben c'est pas le son qu'on va avoir aujourd'hui, c'est le son que Thierry a chargé parce qu'il regarde les durées de son et pas les titres, on le connaît par cœur.
Ah oui.
On va bien parler de Pinceau Passion en Champagne avec Dominique Lenoré, la présidente de l'association. C'est les petits couacs du lundi, cette fois la bande est prête.
Ce sont tous les deux donc des artistes qui ont étudié à Kiev et qui ont aussi, pour Victoria, fait des études d'école d'architecture donc de monuments à Trieste, et Slava qui a fait donc des études de théâtre, de positionnement des personnages au théâtre. Et ça se ressent dans leur œuvre parce que Victoria peint essentiellement des extérieurs, des bâtiments, des villes avec beaucoup de couleurs, couleurs chaudes, très très attirantes. Et Slava, énormément de personnages, en particulier de jolies femmes, avec des très beaux décors. Et cette année, donc, nous renouons avec non seulement une exposition, mais également les démonstrations publiques. Ce seront le moment fort de l'exposition, à savoir que le 22 septembre, donc, dans la salle de spectacle de la Maison commune du Chemin Vert, les artistes effectueront tour à tour une aquarelle sous les yeux du public, puisque ce sera rétroprojeté sur grand écran. Les deux aquarelles seront offertes au public par tirage au sort.
Le temps fort de cette exposition, vous l'avez compris, c'est vendredi prochain, le 22 septembre, avec une démonstration d'aquarelle en direct rétro-projetée. Inscription sur la plateforme Helloasso, moyennant 15 euros. Renseignements et informations sur le site www.pinceaupassionenchampagne.com. L'exposition est en revanche visible en entrée libre tous les jours de 14h à 18h jusqu'au 21 octobre. Quelques résultats des principales rencontres du week-end en football. Le Stade de Reims s'est incliné hier après-midi pour la 5e journée de Ligue 1, 2-1 contre Brest. Les Rémois sont 9e avec 7 points. En Ligue 2, 3 a concédé le match nul 0-0 sur la pelouse d'Annecy samedi soir. Les Aubois cumulent seulement 6 points après cette journée et se classent à la 13e place. 18h37, ainsi se referme cette édition. Le 18-19 en Champagne-Ardenne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et on va parler clôture du programme du 125e anniversaire de la consécration de la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. L'association Les Amis de la Collégiale et la paroisse Saint-Charles-de-Foucault vous proposent d'assister gratuitement à un récital de piano ce samedi 23 septembre à la collégiale. Le pianiste sera Alain Boulan, originaire de Châlons-sur-Marne, professeur de musique à la retraite de Vitry-le-François, organiste dans plusieurs paroisses du diocèse de Châlons. Il est avec Gérald Gaillet.
Alain Boulan n'est pas un inconnu de nos auditeurs, puisqu'ils ont l'occasion de l'entendre dans certaines églises le dimanche. Alain, bonjour.
Bonjour Gérald. Oui, en effet, je ne suis pas toujours dans la même église, puisque normalement, je suis surtout à Saint-Amand et à Vitry-en-Pertois. Mais il m'arrive aussi de jouer dans d'autres paroisses, la paroisse alpin du Surmelin, du côté de Montmort, Belle Abbaye, Chaltrais, où j'y vais aussi régulièrement. Et naturellement, en cas d'indisponibilité de notre organisme à Notre-Dame, je vais à Notre-Dame à l'orgue de chœur, modestement.
Alain, vous avez toujours été musicien.
J'ai toujours été musicien et je ne sais pas de qui je tiens ce don, mais peut-être si je me souviens, mes parents, à l'âge de 6 ans, à Noël, m'avaient offert un piano en bois avec des touches en bois qui donnaient le son du xylophone. Donc, à force de jouer au clair de la lune ou sur le pont d'Avignon, mes parents m'ont dit, bon, écoute, on va te mettre à l'école de musique. Et puis, c'est comme ça que j'ai débuté. Et j'ai pris mon premier cours de piano en 1955. Puis, je suis rentré au conservatoire, à l'école normale de musique de Paris. Et puis, j'ai été professeur de musique pendant 42 ans.
Vous avez aussi, pendant que vous aviez vos années collège, lycée, joué de l'orgue?
J'ai joué de l'orgue. alors modestement parce que je ne suis pas organiste, j'ai du mal à mettre en relation les mains et les pieds. Enfin, je me débrouille et j'ai commencé très jeune, je veux dire dans les années 60, pour jouer de l'harmonium à la chapelle du lycée Pierre Bayen, le dimanche à 9h. J'habitais à Châlons, j'ai joué souvent à Saint-Alpin, à Saint-Jean, et puis plus tard, après, dans d'autres paroisses des Montorlor ou de Larzicourt ou à Rome-Saint-Charles, enfin, dans beaucoup de paroisses. Ouais.
Quelque chose que peut-être les Vitrias se souviennent, c'est que vous êtes l'un des premiers professeurs de l'école de musique de Vitry-le-François.
C'est exact, parce que quand je suis rentré du service militaire en octobre 1968, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi, à savoir que dans le même mois, on cherchait un professeur de musique à Langevin, ce qui est devenu Perrault d'Ablancourt à Châlons. Puis, le mois d'après, une adjointe de la mairie de Vitry téléphone à une adjointe de Châlons, qui me connaissait et qui me dit comme ça, dis donc, on cherche un professeur pour débuter l'école de musique à Vitry. Bon, je dis pourquoi pas. Eh bien, donc on a débuté l'école de musique en janvier 69 avec la collaboration du marchand de musique de l'époque qui s'appelait Monsieur Sénégaz. Et à l'école de musique de Vitry, j'y ai enseigné jusqu'en années 97.
Alors on va revenir à notre récital de piano. Quel va être votre programme, Alain Boulan ?
Dans le programme, il y a des morceaux qui sont ce qu'on appelle des chevaux de bataille. Bon, par exemple, je commence par le prélude des fugues en la mineure, que j'ai joué pour la première fois il y a peut-être 60 ans. Ensuite, j'alternerai des morceaux un peu éprouvants avec des morceaux plus faciles à comprendre. Ensuite, je jouerai un petit Mozart et les variations sur la chanson « À vous dirai-je maman » que Mozart avait entendue quand il était à Paris en 1777. Puis, mon état d'esprit, c'est surtout Chopin, des Nocturnes ou la deuxième ballade. Et puis, je jouerai une œuvre d'inspiration religieuse, parce que j'y tiens, qui est la légende de Saint-François de Paul Marchand sur les flots de Franz Liszt, qui est une œuvre qu'il a composée en fin de vie. Ensuite, j'ai trois amis chanteurs qui sont des amateurs qui chanteront des mélodies de Duparc ou de Schubert. Et puis, je jouerai un morceau de Saint-Saëns, qui est le morceau qui m'a été imposé lorsque je suis sorti du conservatoire en 1962. Et puis, pour finir, je jouerai un choral de Bach, c'est la cantate 147, « Jésus que ma joie demeure ». Et c'est vrai, parce que Jésus est celui qui me protège, et je pense qu'il faut que ce concert se termine en pensant à notre Seigneur, parce que c'est lui qui m'a donné la foi et la vocation pour la musique. Et donc, je dois lui rendre hommage.
Merci Alain.
Merci. Merci.
Alain Boulan avec Gérald Gaillet de RCF, Cœur de Champagne. Le récital de piano, c'est ce samedi 23 septembre, 20h, à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, au programme Bach, Liszt, Mozart, Chopin, Duparc, Schubert, Fauré, Saint-Saëns, Mira, S. Voilà, un beau programme, libre participation, renseignements complémentaires sur le site www.collégial-vitry.fr.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h43, nouvel invité dans cette émission, Paul Hernewein, responsable du service évangélique des malades pour le diocèse de Reims et des Ardennes. C'est avec vous, Jean-Pierre.
Paul Hernewein, bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Depuis quelque temps, vous êtes responsable du service évangélique des malades dans notre diocèse.
Eh oui, je suis déjà dans ma deuxième année maintenant, puisque ça fait plus de 18 mois que le diocèse de Reims m'a confié la responsabilité du service évangélique des malades. Et j'en suis toujours très heureux, amicalement secondé par mon ami Paul Bruno, que je vois très régulièrement et très facilement.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler d'un mot ce qu'est le service évangélique des malades ?
Le service évangélique des malades est une fraternité de soutien de toutes les personnes qui vont visiter des gens seuls ou malades, chez eux, en clinique, en EHPAD. Et ces personnes-là, malheureusement, le font des fois seules. Et pour pas qu'elles soient trop seules toute l'année, on réunit au moins une fois par an, par espace missionnaire, toutes ces personnes qui vont visiter pour voir ce qu'elles vivent, comment on peut les aider et partager ensemble nos perspectives.
Il faut dire, Paul Hernewein, que dans les jours qui viennent, il y a un agenda particulièrement chargé. À commencer par la messe des malades à la Basilique Sarmi, je crois que ce sera le mercredi 27 septembre à 14h30.
Exactement. Le 27 septembre à Saint-Rémy, Paul Bruno s'en occupe encore. C'est lui qui contacte tous les organismes de transport pour aller chercher les malades qui ne peuvent plus trop se déplacer. Et nous faisons une messe avec le père Oudino. J'introduirai cette messe en disant encore une fois qui je suis et ce que je fais là. Et à la fin, il y aura quelque chose, un moment convivial avec des distributions de brioches.
Alors ça, on le note dans l'agenda, mercredi 27 septembre, 14h30. D'ailleurs, RCF retransmettra comme elle le fait chaque année d'ailleurs, la cérémonie.
C'est une messe ouverte à tous.
Hein. Tout le monde est invité.
Tout le monde est invité.
Oui. Autre rendez-vous très très important, c'est dans les espaces missionnaires. Et l'un des premiers rendez-vous a lieu, je crois, dans les Ardennes, du côté de Revin. Moment fraternel également.
Également, avec le père Rodriguez Ouavec, ça se passe toujours très bien depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis toujours très bien reçu par Pascal. Il nous reçoit donc dans son presbytère, une grande salle. Et ensuite, nous allons au restaurant tous ensemble, en continuant notre partage d'expériences, hein, de visite aux malades, à la bonne source. Et l'après-midi, vers 15h, nous clôturons la journée par une messe dans le petit oratoire du presbytère de Revin. Les gens repartent toujours très contents.
Alors ça, c'est le 3 octobre.
3 octobre.
Dans quelques jours, donc, et ce sera dans l'espace missionnaire, comme on appelle Ardennes Nord. Un peu plus au sud, dans les Ardennes, du côté de Rethel, 2 jours plus tard, je crois que c'est le 5 octobre, il y aura là encore un autre rendez-vous.
Exactement, avec Agnès Bellois, qui est ma correspondante directe, va mobiliser le père Coqueret. Et on va faire au moins 2 journées. On fera la première à Rethel et sans doute, parce que c'est l'espace le plus étendu, vous savez.
C'est un grand espace.
Tout le diocèse. Hein.
Ardennes Sud.
Plus de 280 clochers, enfin c'est énorme. Et donc ça aussi, ça va se faire de cette façon-là. On va faire un partage d'expérience et partager le plus possible, peut-être sûrement la convivialité, on ne sait pas encore trop comment, mais...
Donc, voilà. On l'a dit, le 3 octobre à Revin,
oui,
le 5 octobre à Rethel, et puis un petit peu plus tard, le 10 octobre, alors c'est pas très loin de chez vous d'ailleurs.
Non.
Là, cette fois, ce sera à Igny.
Je peux y être à pied, c'est à 3 km, puisque j'ai la chance d'habiter Arcy-le-Ponsard. Et les sœurs d'Igny nous reçoivent, et pareil, le matin, c'est un moment convivial. Certaines sœurs se joindront à nous pour réfléchir sur les visites, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. À midi, on partage un repas, et le père Étienne, de l'espace, donc tard de Noivelle nous accompagnera.
Quelques jours plus tard, ce sera le 12 octobre. Cette fois, on va se trouver à Saint-Thierry.
Exactement, à Saint-Thierry, 9h30, le 12 octobre. Rendez-vous pour partager encore une fois. À midi, à Saint-Thierry, c'est la messe qui sera donc dite par notre... On a la chance d'avoir un prêtre, le père Remy Dubois-Matra. Et on partagera également un repas ensemble. Donc, vous voyez, cette fraternité, c'est pas juste un échange d'idées, de paroles, mais aussi autour d'un repas, c'est quand même beaucoup plus convivial.
Ça, c'est pour le 12 octobre. Le lendemain, le 13 octobre, cette fois, je crois que vous allez dans ce qu'on appelle l'espace missionnaire dans le sud de la Marne.
Montagne Val d'Or. C'est ça. C'est au presbytère de Bouzy, avec Bruno Rigobert. Et Madame Flamand, c'est Monique Flamand, c'est vraiment deux personnes sur lesquelles je peux beaucoup compter, qui m'aident énormément, puisqu'ils ont mis en place depuis 2 ans une prière mensuelle pour le SEM dans une église de leur espace à laquelle je me joins volontiers pour partager et prier ensemble.
Avec le père Jean-Pierre Laurent qui vient d'arriver dans cet espace,
voilà.
Et qui est l'un des vicaires généraux maintenant du diocèse. Bref, il y a quand même pas mal de rendez-vous. Alors, il y en a un qui est très très important, qu'il faut signaler. À l'abbaye d'Igny, c'est un concert baroque. On peut peut-être le signaler parce que là, c'est l'occasion quand même d'entourer les sœurs d'Igny aussi et puis de profiter de cette rencontre.
Oui, exactement. Les sœurs d'Igny nous aident beaucoup à prier et à accueillir toutes sortes de personnes. Et elles sont toujours très disponibles à des manifestations culturelles ou musicales pour attirer de nouvelles personnes afin d'éventuellement les engager sur un tel service aux sœurs et frères malades.
Avec l'association des Amis du Val d'Igny.
C'est ça.
Et c'était un concert avec des musiciens, Rémois.
Des musiciens, Rémois, oui. Le dimanche 15 octobre à 15h30.
Le dimanche 15 octobre à 15h30. On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans d'autres circonstances, mais il faut déjà en parler parce que là, on est en train de feuilleter avec vous notre agenda. Il faut rappeler, puisqu'on évoque les rendez-vous de la Sarmic, le 1er octobre, il y a la solennité de Sarmic, qui est retransmise d'ailleurs sur RCF. Là, d'ailleurs, il est présidé par un évêque qu'on connaît bien.
Oui, Monseigneur Feuillet reviendra spécialement pour l'occasion et présidera cette messe où j'aurai l'occasion de chanter encore une fois dans la maîtrise avec Sandrine Lebec.
Ah oui.
Ça, c'était vraiment extraordinaire.
Vous avez apprécié, je fais une petite parenthèse, l'ordination de Monseigneur Veteux. C'était quand même une belle cérémonie.
Ah oui, oui.
Et les chants ont été remarquables.
Remarquables. On est surtout très, très bien conduits et très bien dirigés par Sandrine.
Sandrine Lebec. Alors justement, on va revenir avec vous, Paul Hernevagne, sur l'appel que vous lancez. Parce que vous avez toujours besoin de personnes au service évangélique des malades. Et là, vous nous lancez un appel aujourd'hui sur RCF.
Oui. parce que malheureusement la population de visiteurs va vieillissante et les gens m'appellent parfois contrit vers 92 ans, disant, vous comprenez, là, je peux plus trop aller visiter. Donc, plusieurs personnes arrêtent tous les ans, mais rares sont les personnes qu'on m'envoie pour les remplacer. Et donc, on aurait besoin de gens. Tout le monde peut, à 5 minutes de chez lui, aller visiter quelqu'un d'isolé, de malade, seul chez lui, à l'hôpital, en EHPAD.
Alors, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent et qui souhaitent en savoir plus et peut-être être visiteurs des malades avec le service évangélique des malades, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent?
Même s'ils ne sont pas très engagés dans l'Église catholique, ils essayent de prendre rendez-vous, même succinctement, avec un prêtre ou quelqu'un qui est engagé dans sa paroisse, et cette personne pourra les aiguiller.
Dans l'espace missionnaire, avec les prêtres, et vers qu'ils se renseignent bien.
Il y a deux référents du SEM par espace.
Il demande, il dit voilà, je veux bien y aller. Bien, on lance cet appel, hein. Vous lancez cet appel, Paul.
Ah oui, complètement. Oui, oui.
Paul Hernevin, avec nous aujourd'hui, venez rejoindre le service évangélique des malades.
Oui, ce n'est pas du tout un club, on ne vous demandera pas une adhésion, on ne vous demandera pas de travail en plus, on vous encouragera simplement, souvent ce que vous faites déjà naturellement, hein, puisqu'il y a des gens qui sont naturellement enclins à aller visiter les malades et les sœurs isolées. Sœurs et frères isolés. Et c'est juste pour les soutenir et les encourager encore plus.
Merci Paul Hernevin. La messe des malades, mercredi 27 septembre, célébration retransmise sur RCF en Sardaigne.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Vaincre la mucoviscidose, 39e édition des Virades de l'Espoir. Pour en parler, on retrouve Francis Faverdin, qui est le responsable dans le département de la Marne, avec Christopher Fausten.
Francis Faverdin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes organisateur de l'événement Les Virages de l'Espoir du côté du département de la Marne. Merci d'être notre invité aujourd'hui sur RCF pour évoquer cette prochaine opération. 36e édition des Virades de l'Espoir. Un rendez-vous qui se tiendra le 24 septembre. Francis Faverdin, quelle est l'importance pour vous d'organiser un tel événement et en plus sur 5 sites qu'on développera dans quelques instants?
L'importance pour nous, moi je suis un parent d'une patiente qui a la mucoviscidose, mais je pense en même temps aux 7500 patients qui sont vivants aujourd'hui avec cette maladie, et je les ai très très nettement en tête, et quand j'en vois certains disparaître trop jeunes, aujourd'hui la médiane de vie avec la mucoviscidose est de 39-40 ans. Elle a bien progressé, hein, mais quand on voit que la moitié décède avant 40 ans, c'est quand même encore jeune. Et en plus, avant de décéder, les conditions de vie, la qualité de vie se dégrade. Tant que on n'a pas trouvé des traitements véritablement efficaces pour la mucoviscidose, on se dit qu'il faut se battre. Alors la situation elle est la suivante. Bon, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, classée comme rare, mais relativement fréquente parmi les maladies rares. Et je pense aussi d'ailleurs à toutes les autres maladies rares qui ont besoin que l'on se mobilise.
Oui,
mais là, on parlera mucoviscidose. Mucoviscidose, c'est une maladie qui, dans les gènes, fait que la protéine qui est codée par ce gène et qui va sur les parois de chacune des cellules du corps crée un problème de transmission d'eau et d'ions à travers les membranes. La conséquence pratique, c'est que dans les poumons, la mauvaise circulation de l'eau fait que l'intérieur des poumons, des bronches, est très sec. De ce fait-là, les cils qui chassent chez des personnes en bonne santé toutes les impuretés, les microbes, etc., ils sont englués, ça fonctionne pas bien. Ça crée des infections et petit à petit, au fil des mois et des années, les patients qui ont la mucoviscidose ont donc des poumons qui se dégradent avec une capacité respiratoire qui est en baisse. Donc notre combat, c'est de faire en sorte que ces symptômes-là s'effacent progressivement. On a une bonne nouvelle depuis qu'on se bat pour...
C'est que la maladie évolue avec des traitements.
C'est qu'on a trouvé un médicament qui a, pour une partie des patients... Pour une partie des mutations de la mucoviscidose, il y a 2000 mutations de la mucoviscidose, et on va avoir 75-80% des patients qui peuvent avoir un bénéfice de ce médicament. qui justement restaure la bonne circulation, la bonne humidification des poumons.
Donc il y a du progrès. Depuis la création de l'association Vaincre contre la mucoviscidose en 65, on voit que les choses évoluent, mais malheureusement ça ne suffit pas. Et forcément, il faut toujours faire mieux, faire plus.
Ce médicament ne guérit pas les patients en tant que tels, il fait une amélioration et ceux qui étaient très très bas en capacité respiratoire, ils vont mieux, mais c'est insuffisant. Et puis, il y a une partie des mutations qui ne répondent pas à ce médicament. On ne veut pas avoir une mucoviscidose à deux vitesses, les uns qui sont améliorés et les autres qui sont toujours pas soignés, si ce n'est par ce que l'on avait depuis quelques dizaines d'années, la kinésithérapie respiratoire tous les jours, un certain nombre de médicaments. Et puis nos patients transplantés, qui étaient la bouée de secours quand vraiment les poumons ne fonctionnaient quasiment plus. Et là, il y avait une greffe bipulmonaire. Et là, on a 1000 patients aujourd'hui qui vivent avec un greffon. C'était formidable, mais eux non plus ne bénéficient pas de ce traitement-là. Il y a d'autres problèmes après greffe.
Alors c'est pour ça que Francis Faverdin, vous continuez à vous battre. Vous êtes très touché par cette maladie, forcément. Vous l'avez expliqué il y a quelques instants. Vous continuez à vous battre en menant toujours des opérations chaque année. Et c'est le cas ce 24 septembre avec des randonnées et animations sur 5 sites. Comment va s'organiser ce rendez-vous, Francis Faverdin ?
Eh bien, les 5 sites de la Marne, si on commence par la première commune, il y a Le Breuil, qui est dans la vallée du Surmelin, une superbe équipe qui se mobilise pour à la fois faire connaître sa jolie vallée, aider l'association Vaincre la mucoviscidose. Et puis on a Villers-Marmeries, qui est à sa 36e édition, Véli, Vienne-le-Château et Saint-Gibrien.
Donc c'est Le Breuil qui rejoint pour la première fois cette opération Virade de l'Espoir. Donc on disait que des animations et des randonnées destinées à tout le monde.
À tout le monde, absolument. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Je crois que si on arrive à réunir depuis des années près de 5000 participants dans la Marne sur ces 5 communes, c'est parce que justement, tout le monde y trouve son compte. Hein. Les familles avec enfants peuvent se promener, faire une toute petite randonnée à leur rythme. Ceux qui, à l'extrême opposé, veulent courir peuvent le faire, et ceux qui veulent même courir en étant chronométrés, à Saint-Gibrien et à Véli, ont une organisation à cet effet. Mais partout, il y a des randonnées pédestres et VTT, chacun à son rythme, balisé. On part quand on veut dans les plages horaires qui sont indiquées dans nos programmes.
Et donc, j'imagine que organiser un tel événement sur 5 communes de la Marne, ça demande quand même une grande mobilisation. Dans votre équipe, ça mobilise combien de bénévoles, Francis Faverdin ?
J'estime que ça doit mobiliser autour de 400 bénévoles.
400 bénévoles
sur les 5 sites, oui.
Pour une journée
Oui, parce qu'il faut baliser, débaliser,
tout à fait.
Servir les participants aux différents ravitaillements, assurer la sécurité au croisement de route, accueillir les personnes pour les dons à l'arrivée, la restauration du midi, des frites, des grillades, etc., le parking, enfin voilà, c'est effectivement une assez grosse organisation et on a un souci de sécurité avant tout. On est là pour gagner des vies, surtout pas en mettre en péril.
Un combat pour la vie, ce 24 septembre, on le disait, Francis Faverdin, randonnée et animation sur les 5 sites de la Marne, hein, sans oublier bien sûr que d'autres départements bien sûr se mobilisent autour de l'événement. On n'oublie pas nos voisins Ardennais, Aubois et Haut-Marnais qui doivent aussi organiser des opérations.
Notamment Ardennais, il y a une virade à Mouzon, dans l'Aube, il n'y en a pas cette année. Et je rajoute que ce que l'on n'a pas pu citer complètement en détail, le programme détaillé se trouve sur le site de l'association qui s'appelle virade.org.
On retrouve toutes les informations ici.
Et là, on trouve absolument toutes les informations mises à jour au point de vue horaire, au point de vue animation, souvent l'après-midi, et voire même la veille à Saint-Gibrien où il y a la chorale Résonance et de l'accordéon. Mais sinon, l'essentiel, c'est le jour J. Et il y a des très belles choses. À Villers-Marmeries, il y a Christophe Lartilieu avec d'autres jazzmen. Ça va être formidable. Le groupe Gnoudem qui va, avec du djembé, mettre de l'ambiance. Il y a un peu tous les styles. Il faut aller sur virade.org et il y a une excellente ambiance. On vient au virade, je pense qu'on sait pourquoi on vient au virade, mais on n'en parle pas tant que ça le jour de la virade. C'est ça qui est un esprit très fort et une très très belle ambiance, une très très belle solidarité.
Avant de nous quitter, Francis Faverdin, combien avez-vous récolté ces dernières années? Par exemple, si on prend sur l'opération de l'année dernière, ça représente combien?
L'année dernière, sur la Marne, on a collecté 90 800 euros. Voilà.
Très belle récolte.
Et on avait rassemblé 4600 participants.
Et on espère faire aussi bien cette année en 2023 avec vous, Francis Faverdin, responsable des Virades de l'Espoir dans la Marne, qui était avec Christopher Fausten depuis les studios RCF à Châlons-en-Champagne. Demain, on sera depuis Charleville-Mézières, la place du Cal, devant les magasins Janteurs, Festival mondial des théâtres de marionnettes, 22e édition, le magazine régional 18h-19h. Vous pouvez venir à notre rencontre. Très bonne soirée en compagnie de RCF.